Cinquième, géographie, thème 1, la question démographique et l'inégal développement. Pour ce thème, nous allons avoir deux parties. La première partie, la croissance démographique et ses effets. Seconde partie, la répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde. Alors, la croissance démographique est inégale, hein. Depuis 2 siècles, on a évidemment une population mondiale qui n'a cessé de croître. En 1800, on avait 1 milliard d'habitants sur la planète et aujourd'hui, 200 ans après, nous sommes près de 7 milliards 800 millions. On devrait atteindre pardon, les 8 milliards entre 2020 et 2021 et atteindre les 10 milliards d'êtres humains en 2050. Donc on n'a jamais été aussi nombreux sur la planète et depuis 200 ans, on a une très forte augmentation démographique. Néanmoins, cette croissance démographique, elle est inégale, donc ça dépend des continents ou des pays, hein. Elle est par exemple plus forte aujourd'hui en Afrique. Si on prend l'exemple de l'Éthiopie, la population, elle a été multipliée par 5 entre 1950 et aujourd'hui. Donc c'est plutôt dans les pays en développement que la population augmente le plus. Si on prend à l'inverse la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, ces pays sont déjà développés et leur population augmente peu, voire très peu, voire même peut diminuer dans certains cas. Donc si on revient sur les pays où, qui ont une croissance démographique forte, hein, on a également le cas des pays qui sont les pays émergents comme l'Inde et la Chine, où la population est extrêmement nombreuse, 1,4 milliard en Chine, 1,3 milliard en Inde. Cependant, pour eux, le taux de natalité est devenu presque aussi faible que dans les pays développés, où la population augmente lentement. Donc comme dans ces pays, la population va vieillir. Donc on voit hein, que finalement, un pays qui a connu une très forte augmentation de sa population, à un moment donné, cette augmentation va cesser pour retrouver des niveaux d'augmentation, on va dire, classiques, hein, c'est-à-dire entre 1 et 2 enfants par femme. Donc maintenant, on va s'intéresser aux conséquences de la croissance démographique. Alors la croissance démographique, elle pose dans un premier temps la question des capacités des États à répondre aux besoins des populations. C'est simple à comprendre, hein. Si j'ai plus d'habitants, j'ai plus de besoins. Il me faut plus de nourriture, il me faut plus de biens, il me faut plus de logements, il va me falloir plus d'écoles, il me faut plus de travail, il me faut plus de matière. Donc c'est simple à comprendre, une population qui augmente, augmente ses besoins, donc augmente son besoin de se développer. Donc pourtant, l'amélioration générale des conditions de vie pour un nombre croissant de personnes est déjà réalisée en partie grâce à plusieurs facteurs. Donc premier facteur qui va en principe répondre à l'augmentation de la croissance démographique, c'est la croissance économique, c'est-à-dire le développement des capacités de production dans un pays. Deuxième facteur, les transformations des conditions médicales, sanitaires et sociales. Troisième facteur, les progrès techniques et scientifiques. Donc ces trois facteurs, ces changements expliquent dans de nombreux pays le développement spectaculaire de la population, c'est-à-dire la diminution de la mortalité infantile, l'allongement de la durée de la vie et également l'importance de la jeunesse. Alors, si on prend l'accès à la santé et à l'éducation, ce sont évidemment des services de base qu'un État doit fournir à sa population. Si on n'a pas les conditions nécessaires hein, en termes de santé, bien on a une population, notamment les plus jeunes, hein, qui risquent d'avoir des problèmes de développement. Et puis, pour l'éducation, évidemment, si on veut avoir un pays qui fonctionne correctement, si on veut avoir des générations qui peuvent aider les autres générations, si on veut avoir un pays qui connaît une croissance démographique économique forte, eh bien, il faut d'abord passer par une formation de sa population, c'est-à-dire par une éducation, c'est-à-dire par les écoles. Dans les pays très peuplés comme la Chine, satisfaire ses besoins représente un coût financier important. Ainsi, la Chine, elle doit investir massivement, c'est-à-dire dépenser de l'argent pour répondre à des problèmes de santé, notamment en raison de la pollution ou de du vieillissement actuel de sa population. En Afrique, un problème différent où il faut scolariser une population jeune très nombreuse et offrir des conditions d'éducation égales entre filles et garçons. Alors ça, c'est vrai que la question des filles et des garçons, c'est une question qui revient souvent, hein, qui est assez simple à comprendre. Hein, dans un pays, dans un état où on n'a pas suffisamment d'argent pour offrir à tous une scolarité, eh bien certains états font le choix de donner une priorité aux garçons par rapport aux filles, en considérant que la fille, arrivée à un certain âge, eh bien, disons arrivée à la fin de la primaire, eh bien, elle va se marier, elle va fonder une famille, et ce n'est pas considéré comme une priorité qu'elle obtienne une formation, un métier. Donc ça, c'est au niveau mondial, hein, il y a un effort qui est fait pour faire en sorte que les filles aient droit à l'éducation comme les garçons, y compris donc dans les pays pauvres ou les pays en développement. Donc malgré des progrès rapides, hein, l'accès à l'école est encore imparfait. On insiste, hein, les filles et les habitants des campagnes ont un moindre accès à l'éducation. L'accès aux études supérieures reste aussi rare, hein, en Afrique. En revanche, dans les pays développés, l'État offre une éducation de qualité à toute sa jeunesse, que ce soit dans les pays comme la Suède, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, le Canada, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie. Voilà une liste de pays développés où là, évidemment, il n'y a pas de... pour la majorité, hein, les conditions pour la scolarité sont exceptionnelles. Même si on peut avoir un pourcentage d'élèves dans les pays riches aussi qui sont en difficulté. Dans les pays développés, alors maintenant, comme par exemple les États-Unis ou l'Europe, hein, on ne va pas les reciter, les États doivent relever un défi important que les autres n'ont pas pour l'instant, c'est le défi du vieillissement de la population. On a effectivement une population qui dépasse les 65 ans, ce qui entraîne donc des coûts de santé importants, et puis un coût également pour la société, puisque on a des populations qui ne travaillent plus, qui bénéficient donc de ce qu'on appelle la retraite, hein, et qui donc représentent un coût économique important. Bon, je rappelle, si on prend le cas de l'Europe et de la France, hein, le principe de la retraite, ce sont ceux qui travaillent, qui donnent une partie de leur salaire pour financer ceux qui ne travaillent plus. Donc c'est un système de solidarité, mais il faut évidemment qu'on ait un équilibre entre le nombre de personnes qui travaillent et le nombre de personnes qui ne travaillent pas. Si à un moment donné, j'ai plus de personnes qui ne travaillent pas que de personnes qui travaillent, eh bien cet équilibre il est rompu et on a des difficultés pour payer la retraite pour ceux qui ne travaillent plus. Voilà, donc ça c'est une question importante, hein, dans les pays développés, cette question du vieillissement de la population, d'une partie de sa population. On arrive à la seconde partie de cette thématique, donc la répartition de la richesse et de la pauvreté dans le monde, on en a déjà parlé un petit peu. Alors, des inégalités, il y en a partout dans le monde. Les conditions de vie sont en progrès à l'échelle mondiale, ça c'est sûr, mais on observe un creusement des inégalités, notamment à l'échelle du monde. Mais pas seulement, également entre les États ou à l'intérieur des États, entre différentes régions. Bon, par exemple, si on prend les espaces urbains, donc les grandes métropoles, hein, on a ce qu'on appelle des fragmentations socio-spatiales, c'est-à-dire des coupures entre une partie des habitants de la ville en fonction des lieux. Ces coupures donc, peuvent être très fortes et elles révèlent les inégalités. Donc, on aura par exemple des quartiers plutôt riches ou des quartiers plutôt pauvres, avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans la vie quotidienne. On a donc une partie non négligeable de la population mondiale qui peut être privée de l'accès aux biens et aux services élémentaires, nécessaires à son bien-être, à son insertion sociale. Alors, quelques exemples, hein, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès au transport en commun, au traitement des déchets, au ramassage des déchets. Et dans certains pays, dans certains quartiers, on a ce qu'on appelle hein, les bidonvilles, hein, où là, donc, eh bien, tous ces services ne sont pas proposés aux habitants de ces quartiers. Les richesses sont donc très inégalement réparties. Ainsi, 1% de la population possède 50% des richesses mondiales. Donc, les régions les plus riches, on le répète, hein, sont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud, alors que la pauvreté va plutôt se concentrer dans une partie de l'Afrique, une partie de l'Asie et une partie de l'Amérique latine. Cependant, la répartition des richesses est très inégale à l'intérieur aussi d'un même pays. Par exemple, 23% des Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors que le continent, hein, et notamment les États-Unis, font partie des pays ou des zones les plus riches du monde. Donc ces inégalités opposent souvent la campagne pauvre à la ville plus riche, et même dans une ville, je le rappelle, hein, on peut avoir des quartiers pauvres, les bidonvilles, alors qu'on a à quelques kilomètres, voire même parfois quelques mètres, hein, notamment on le voit au Brésil, hein, des quartiers riches. Donc si on a cette inégalité partout dans le monde, on a évidemment l'objectif, au niveau mondial ou au niveau des États ou au niveau local, de lutter contre la pauvreté. Donc cette pauvreté, elle se manifeste à différentes échelles. Hein. Elle limite l'accès au logement, la pauvreté, on l'a dit, à l'eau potable, à l'éducation d'une grande partie de sa population. Dans les pays les plus pauvres, comme par exemple au Bangladesh, en Asie, près de l'Inde, hein, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, et puis également des organisations non gouvernementales, ce qu'on appelle des ONG comme Médecins Sans Frontières, ou la Croix-Rouge, et bien donc ces organisations, avec l'aide des citoyens, essayent de mettre en place des aides et des projets de développement pour les populations les plus fragiles. Donc ça peut être des soutiens pour créer des entreprises, des petites entreprises, faire des petits crédits, des micro-crédits pour créer de l'activité. Ça peut être financer des écoles, alors soit carrément pour la construction d'écoles, soit pour l'achat de matériel scolaire, que ce soit des livres, des cahiers, des stylos. Ça peut être également des dispensaires de santé. Alors le dispensaire de santé, il a deux fonctions, hein. C'est donner donc, la santé, les soins élémentaires, mais également donner des conseils aux populations. Hein. Ça, c'est aussi important. Dans les pays riches, les politiques d'aide sociale ne parviennent pas toujours non plus à réduire la pauvreté de certains quartiers, ou de certaines villes, hein, ou de certains espaces, ou de certaines populations. On a, je rappelle, hein, 10 millions de pauvres en France. On n'a pas réussi, pour l'instant, à diminuer le nombre des pauvres en France. Malgré tout, au niveau mondial, on a un recul de la pauvreté. Je dis bien au niveau mondial. La pauvreté, elle baisse dans le monde. En 1981, on avait 2,8 milliards de personnes qui étaient donc considérées comme pauvres, soit près de la moitié de la population qui vivait à moins de 2 dollars par jour. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'un milliard, donc on a 1 milliard sur à peu près 8 milliards de personnes qui sont pauvres. Cependant, donc, de fortes inégalités persistent dans les territoires. Ça, c'est vraiment à retenir, hein, cette inégalité de richesse dans les territoires. C'est en Asie de l'Est que la réduction de la pauvreté est la plus rapide et la plus visible. Donc, on a des pays comme le Vietnam, comme bien sûr la Chine, comme l'Inde, qui ont fait des progrès extrêmement rapides, spectaculaires, hein, et qui sont passés en quelques années, en quelques dizaines d'années, en 20-30 ans, d'une situation de pauvreté à aujourd'hui une situation de pays émergents, voire de pays déjà presque riches. Dans l'Afrique, on va considérer une partie de l'Afrique qui se situe au sud du Sahara, on appelle ça l'Afrique subsaharienne. Et bien là, le nombre de personnes extrêmement pauvres continue d'augmenter, en raison notamment de la forte croissance démographique, c'est-à-dire qu'on est sur aujourd'hui, hein, l'Afrique subsaharienne, c'est la région du monde où la population augmente le plus. Donc, Évidemment, on n'a pas arrêté de le dire, hein, si la population augmente très fortement, les besoins augmentent fortement, le besoin de développement augmente fortement. Donc là, ces États ont de grandes difficultés à répondre à ces besoins et donc ils ne parviennent pas à réduire la pauvreté qui, dans certains cas, peut continuer d'augmenter.